Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Des Mediapolis comme tous les samedis matins et toujours en direct pour cette 14e année. Une émission réalisée par Jean-Luc Arblat, préparée par Capucine Patouillet et notre invité donc, Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro et co-auteur chez l'excellent éditeur historique Perrin. Il dirige avec Jean-Christophe Buisson un ouvrage sur les grandes figures de la droite de 1789 à aujourd'hui. Guillaume Tabar, vous n'avez pas mis dans les grandes figures de la droite Emmanuel Macron, pourquoi ?
Alors, parce qu'on a sectionné 21 figures, donc à partir du moment où on en choisit 21, on peut faire la liste des 10, 20, 30, 40 qu'on aurait pu mettre également. Ensuite, parce que vous avez rappelé que Perrin est un éditeur historique. Oui. Or, Emmanuel Macron est en train d'écrire l'actualité. Donc, on verra plus tard de quel côté il faut le ranger. Alors, je vois bien le côté...
Pas sympa pour Nicolas Sarkozy, ce que vous dites.
Nicolas Sarkozy a été président de la République.
Mais enfin, il n'est pas devenu historique. Il est encore dans l'actualité aussi.
Tout à fait. Mais je veux dire que son action politique et sa présidence appartiennent désormais à l'histoire.
D'accord.
Mais on peut mettre une majuscule à histoire également pour ne vexer personne. Bon, je vois bien le côté un peu taquin de votre question sur Emmanuel Macron. C'est évident qu'aujourd'hui, il y a une question qui se pose, savoir de quel côté il faut placer Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il incarne, si ce n'est toute la droite, du moins une partie de la droite, sur le plan électoral, sur le plan d'action, c'est évident, mais le jeu est encore en train de se jouer. On ne sait pas quelle sera la donne en 2022.
Donc, on ne sait pas quelle sera la donne en 2022. Mais tout à l'heure, on demandera à Guillaume Tabar de faire ses pronostics et d'essayer de resserrer un petit peu la liste par rapport aux pronostics hippiques. Et on verra ce qu'il nous dira pour 2022. En attendant, comme d'habitude, et sans prendre plus de retard, l'ami Canteloup, mercredi matin sur Europe 1.
Emmanuel Macron a défendu l'installation de la 5G. Il a comparé ceux qui y étaient hostiles à des Amish, cette communauté religieuse américaine qui vit comme au XVIIIe siècle. Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a déclaré qu'il n'y avait aucun mépris dans cette formule.
Bon, écoutez, ma chère Julie, ce n'est pas ma rubrique, pardonnez-moi. Pardonnez-moi ici, Nelson Monfort. Écoutez, je me permets d'intervenir car je connais ce métier difficile de traducteur.
Ah, oui.
Ce qu'a essayé péniblement de faire Amélie de Montchalin. Non, le président a simplement voulu dire dans son langage, peut-être un petit peu fleuri, peut-être imagé, qu'il assume qu'on ait besoin, il assume totalement ce besoin d'innovation et que la technologie peut apporter, nous le savons tous ici, à la régie, bien sûr, moult services.
Oui, oui, voilà, merci en tout cas, cher Nelson Monfort, de me traduire, parce que, vous savez, cher Julie Leclerc, la 5G, c'est l'avenir. Moi, je me refuse à écouter les écolos rétrogrades qui veulent nous envoyer à l'âge de pierre, pardonnez-moi. Je trouve ça fou que des gens qui sont déjà pas capables de se laver les cheveux correctement et qui, de surcroît sans le poney, osent donner leur avis sur un problème de haute technologie.
La 5G, c'est l'avenir. Ça, c'était Canteloup faisant Macron. Maintenant, écoutez Macron le vrai.
La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Et il y en a un auquel ça n'a pas plu du tout, le maire de Grenoble.
Il y a un mépris, et puis il y a un mépris des territoires. Il faut qu'il sorte un peu de son bunker à Paris, en fait. La France des territoires, aujourd'hui, lui, il va en faire juste les cœurs de métropole, ultra connectés, et sa Startup Nation, en fait, elle ne parle pas à beaucoup de gens.
Dernière chose, pour les plus âgés comme moi, souvenir, dirait Catherine Ney, dont c'est le titre du livre. Pour les plus jeunes, un peu d'histoire. Il y en a un qui avait évoqué la lampe à huile pour dire que l'Empire, la colonisation en France, c'était fini. Il s'appelait De Gaulle et c'était le 14 juin 1960.
Il est tout à fait naturel que l'on ressente la nostalgie de ce qui était l'Empire. Comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais quoi ? Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités.
Oui, merci au service des archives et à Benoît Dickenstamp qui nous a retrouvés à notre demande. Ce beau souvenir du général de Gaulle sur la lampe à huile. Alors, notre émission s'appelle Mediapolis. Je voudrais que et Catherine Ney et Guillaume Tabar nous disent qu'à leur avis, lorsque Emmanuel Macron, pour contrer la critique gaucho-écolo de la 5G, utilise la métaphore de la lampe à huile et la métaphore des Amish, est-ce que c'est de la bonne communication ou est-ce que c'est un début de provocation? Qui commence? Catherine. Dubitative.
Non, mais je veux dire, aujourd'hui, où la provocation, c'est la règle générale sur les réseaux sociaux, où on dit absolument... Ben, il s'adapte, moi, je trouve, à son temps, ça peut irriter. Il a un style qui est le sien, d'un type qui a 41 ans, qui... et voilà, et les Amish, alors c'est vrai que c'est une secte qui vit aux États-Unis. Il y a un très beau film, Witness, qui...
avec Harrison Ford, si j'ai bonne mémoire.
Oui, voilà, avec Harrison Ford, où on les voit vivre, évidemment, en étant dans la décroissance totale et dans le... Voilà, vivant comme s'ils vivaient 300 ans plus tôt. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est supportable de se faire traiter d'amiche quand il entend, lui, de son côté, tout ce qui s'abat sur eux pour le détruire. Alors voilà, moi, je crois que c'est à une période où on ne peut plus parler comme le général de Gaulle. Hein, et encore que le général de Gaulle, il se moquait des rétrogrades. Voilà, moi, je pense que ça ne vaut pas le coup d'en parler même.
Guillaume Tabar. Ah, merci beaucoup. Guillaume Tabar.
Oui, alors puisqu'on a écouté un son historique, il faut quand même rappeler, puisqu'on est quand même sur Europe 1, un autre son... d'Emmanuel Macron lui-même sur Europe 1 en novembre 2016. Il était juste, il se lançait dans son aventure, il venait lancer En Marche. Et déjà, en parlant de l'écologie, il disait que pour lui, l'écologie, c'était une priorité, mais qu'il ne croyait pas à l'écologie amiche. Déjà, l'expression, l'image, on pourrait croire qu'elle lui est venue de manière spontanée dans cette intervention la semaine dernière, mais pas du tout. Il l'avait déjà employée lui-même il y a 4 ans, ce qui montre qu'il a de la constance.
Voilà, signale à la direction d'Europe 1 le talent de Guillaume Tabar qui, le cas échéant, en cas de nécessité, pourrait très bien venir me remplacer pour animer Mediapolis, tellement il trouverait les bonnes archives.
Pas pour vous remplacer, mais pour faire des recherches dans les archives, effectivement. Alors après, pour revenir à votre question, si la bonne communication, c'est d'obtenir l'objectif que l'on souhaite, oui, c'est de la bonne communication. Pourquoi? Parce que l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de dire, dans l'écologie, il y en a qui croient au progrès, c'est nous, il y en a qui n'y croient pas, ce sont les écologistes. C'est binaire, c'est simpliste, c'est sans doute un peu caricatural. Mais si le but c'était ça, c'est atteint. Inversement, on peut dire que si on s'intéresse au fond du débat, qu'il le réduit d'une certaine manière. Parce que sur la 5G, franchement, enfin, personnellement, je partage son avis. Je pense que la 5G va nous amener un certain nombre de progrès en termes de communication. Bon. Mais le principe même de s'interroger, de poser des questions sur un progrès technologique, ça me paraît au contraire plutôt être sain, dire est-ce que c'est bon? Est-ce que tout progrès technique est bon? On peut répondre oui. Pour la 5G, je réponds oui. Mais au moins, on a le droit de poser la question.
Alors, je signale à la présidence de la République, au cas où la direction ne voudrait pas me remplacer, qu'elle peut recruter Guillaume Tabar, puisque sur la 5G, il considère que Macron a raison, mais en même temps, qu'on a le droit au débat. Et bien, le débat, c'est ici qu'il a lieu. Les prévisions, non pas hippiques, mais politiques, que je vous ai promises dans 2 minutes.
Europe 1. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Alors, nous sommes à un peu plus d'un an et demi de l'élection présidentielle. Et, comment dire, dans les pré-campagnes présidentielles, il y a des moments où il commence à se passer des choses. On ne sait pas exactement pourquoi elles bougent comme ça. On ne sait pas si ces mouvements-là sont annonciateurs de plus fort encore dans le même sens ou seront contredits, mais ça existe en dehors même des sondages. Et là, il faut savoir juste les repérer. Après, c'est plus difficile de prévoir s'ils sont définitifs et l'annonce d'une grande vague ou pas. Et je trouve que le mouvement à droite en cette rentrée, il est pro-Xavier Bertrand. Il est pro-Xavier Bertrand parce que d'une part, de plus en plus, il y a l'idée que Barouin n'ira pas et que donc il y a un vide qui se fait. Il est pro-Xavier Bertrand parce que Valérie Pécresse, c'est quand même un peu à part, un peu différente, un peu distancée par rapport à lui. Il est pro-Xavier Bertrand au point, par exemple, que le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, invité d'Yves Tréhard dans le Figaro Live, a déclaré vendredi dernier, écoutez...
Et je considère que la droite ne peut pas faire fi des intentions de Xavier Bertrand. Et que Xavier Bertrand a des qualités, il a des atouts, il a rappelé son attachement à la droite, il combat aujourd'hui la politique menée par le gouvernement, il a un bilan à la région, et si demain il est réélu à la tête de sa région Hauts-de-France, eh bien, ça sera un élément qui va compter et que nous devons prendre en compte, et on ne peut pas en tout cas balayer d'un revers de main sa candidature.
Alors, deux questions, Guillaume Tabar. Première question, est-ce que vous êtes d'accord avec la grande Catherine et sa loi du désir, condition préalable pour être un candidat solide et ensuite éventuellement être élu à la présidence de la République? Et depuis des mois, elle nous dit François Baroin ne remplit pas cette condition, au moment où tout le monde disait ce sera Baroin et tout. Est-ce que vous êtes d'accord que cette loi s'applique et que donc nous n'aurons pas Baroin? Et deuxièmement, est-ce que vous ressentez comme moi, alors moi c'est pas une loi, je suis en l'espèce, mais comment dire, une sorte de flair, une sorte de ressenti, comme on dit, d'un moment Bertrand? Alors deux questions, brève réponse.
Donc la loi Catherine Ney, oui, elle est infaillible, si j'ose dire, pour être candidat et pour remporter une présidentielle. Il faut en avoir envie. On n'a pas eu, on n'a eu aucun président qui n'en ait pas eu envie, une envie maladive ou presque habitée. Enfin,
on a même eu des données élus qui n'y sont pas allés parce qu'ils n'avaient pas envie, Jacques Delors.
Oui, on a eu ça. Mais en tout cas, 100% des battus ne sont pas des gens qui n'en avaient pas envie, mais 100% des élus en avaient envie.
D'accord.
Et c'est vrai que François Baroin, depuis le début, on voit bien qu'il hésite. Ce qui est d'ailleurs plutôt honorable de se poser des questions. Moi, je pense que le vrai problème de Baroin, ce n'était pas uniquement ce problème d'envie. Je pense aussi qu'il y avait une difficulté à identifier politiquement ce qu'il incarnait et que même si c'était lancé, si la machine à l'air s'était mise derrière lui, cette candidature ne serait pas imposée de manière totale et évidente à droite.
Et le moment Bertrand ?
Alors, le moment, c'est exactement le mot. Oui, il y a incontestablement un moment Bertrand, comme il y avait un moment Baroin avant. Bon. Mais d'ailleurs, le pire, c'est que Baroin lui-même, depuis 2017, s'amuse de ce jeu du séquençage. Bon, lorsque on disait lui il est parti, il est fini, etc. Bon, on disait là vous nous faites un moment Wauquiez, mais vous verrez, il y aura bientôt un moment Baroin, et puis après on vous nous fera un moment Pécresse, etc. Bon, et lui-même il est en train de bénéficier, mais ce qui est risqué, de ce qu'il diagnostiquait pour les autres, à savoir être l'objet d'un moment. Le problème d'un moment, par définition, c'est que ça risque d'être borné.
D'où ma question pour vous, je sais que c'est difficile de répondre. C'est plutôt de l'écume ou c'est le début d'une vague ?
Je pense que c'est un phénomène sérieux. Parce que ce qu'incarne Xavier Bertrand, ce n'est pas neuf. Ça fait de nombreuses années qu'il essaye d'incarner, de représenter cette sensibilité un peu sociale et populaire de la droite, qui surtout, à mon avis, la force de ce courant, c'est qu'il est en exact inverse de ce que représente Emmanuel Macron. Or, dans une campagne, il faut représenter l'inverse du président en place.
Catherine ?
Oui, c'est vrai. Et puis, il a quitté le parti, les Républicains, mais il s'est fait une marque. C'est la marque dans sa région. Il est, d'ailleurs, il travaille énormément. Il est sur tous les fronts, on le voit. Il prend la parole très souvent. Et peu à peu, son image... il y a une image de Xavier Bertrand. Il a créé sa marque. Voilà.
Alors, est-ce qu'il va la poser ?
Ah ben je crois en tous les cas qu'il en a très envie.
Oui, que ça c'est bon, il remplit la loi Ney, d'accord.
C'est un projet de société intime, d'accord. Il en a envie depuis très longtemps.
Mais la loi Ney, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante,
mais indispensable.
Oui, donc il l'a rempli. Et oui. Plus ?
Et plus, parce qu'il a fait ses preuves dans la région.
D'accord.
Voilà. Je pense qu'il a des chances d'être réélu.
Alors après, on va dire un petit mot...
Dans sa région.
Alors
dans
après,
sa région.
On va dire... Guillaume Tabar.
Oui, parce que...
Il a aussi... Aujourd'hui, moi, je pense aujourd'hui qu'il a même des chances d'être élu, des possibilités d'être élu à la présidence de la République.
Il en a la possibilité, mais...
Vous savez ce que je pense, pour vous dire, je vous le teste, je vais vous le dire, et puis après, vous réfléchirez un peu, parce que c'est pas évident ce que je dis, et c'est pas toujours sans intérêt. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Ma thèse, c'est que les Français ne veulent absolument pas d'un second tour Macron-Le Pen, que les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, Macron serait en situation d'accéder au second tour, et que s'ils voient qu'ils peuvent avoir quelqu'un d'autre que Le Pen, ils se jetteront dessus et que c'est ça le danger pour Macron. Vous réfléchissez deux minutes, vous me dites si vous êtes d'accord.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Cher Guillaume Tabar, chers auditeurs, Mediapolis 19 septembre à 10h18, j'ai pris mon premier risque sur la présidentielle de 2022 en disant que les Français ne voulant pas d'un duel Macron-Le Pen choisiraient un autre candidat contre Macron et que ça pouvait être Xavier Bertrand. Si c'est le cas, je vous demande de vous en souvenir, sinon de l'oublier. Mais entre-temps, Guillaume Tabar, vous, cette hypothèse-là, vous en dites quoi ?
Alors, vous m'avez demandé de réfléchir, donc j'ai réfléchi pendant la pucité. Je suis d'accord sur le refus du match Macron-Le Pen, bon, et que les Français, d'une manière ou d'une autre, trouveront le moyen d'imposer une autre offre. Je suis d'accord avec ce point.
Je suis... C'est déjà important.
C'est déjà important. Bon, je suis plus, non pas en désaccord, mais plus ouvert sur la conséquence de ce choix. Parce que, tel que vous le formulez, vous semblez partir du principe que, du coup, il faudra quelqu'un d'autre que Marine Le Pen face à Emmanuel Macron.
Ça peut être l'inverse. Ça peut être
quelqu'un d'autre face à Marine Le Pen.
Non, mais c'est là où je prends un petit risque. Voilà. Je sais très bien que ça peut être l'inverse. Je pense que la probabilité est plus de remplacer Le Pen, qui est davantage rejeté que Macron, si vous voulez. C'est ça,
oui,
mon,
mais moi,
mon
je
truc.
Pense que Marine Le Pen aussi, elle a un socle qui aujourd'hui même si elle est critiquée, même si dans son propre camp elle est contestée, on voit bien ce que fait Marion Maréchal, etc. Mais je pense qu'elle a un socle qui est aujourd'hui difficilement compressible, hein, que je ne vois pas inférieur à 20-22%.
Oui.
Bon, donc pour moi, il y a deux inconnus. C'est d'abord, qui sera l'alternative ? Est-ce que c'est une alternative à Macron ou à Marine Le Pen ? Et ensuite, si c'est une alternative à Emmanuel Macron, est-ce qu'elle vient de la droite ? Donc d'où les chances d'un Xavier Bertrand ou d'un autre ? Où est-ce qu'elle viendra de la gauche, qui aujourd'hui paraît en miettes, déchiquetée, archipélisée, comme dirait notre ami Jérôme Fourquet. Mais si les vents soufflent un peu à gauche, et on ne peut pas dire que Emmanuel Macron en ce moment bloque énormément les vents venant de la gauche, qui sait s'il n'y aura pas quelqu'un qui, le moment venu, dans 18 mois, sera capable de fédérer
clair,
la gauche.
C'est clair que c'est une question, parce qu'on voit que sur le fond, idéologiquement, de macronistes de gauche jusqu'à une partie même de la France insoumise, il y a un très 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 large accord sur les questions sociales, écologiques, etc. Ce qui leur manque, c'est quelqu'un pour l'incarner. Catherine Ney, vous êtes d'accord avec, grosso modo, l'hypothèse, on voudra trouver une solution pour éviter la répétition de 2017 ?
Peut-être. Moi, d'abord, il faut se poser la question, est-ce que Marine Le Pen pourra se représenter ?
Oui.
Est-ce que si le 25 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, le tribunal dit que son parti est en dépôt de bilan et qu'il y a un administrateur judiciaire qui vient. Elle a 30 millions de dettes.
Oui.
Bon, si elle dit, bon, je pourrais être candidate, bon, elle ne sera pas inéligible, mais elle sera hors parti. Qui va lui prêter de l'argent ? Aujourd'hui, c'est interdit d'emprunter à la Russie. Qui va lui prêter d'argent pour qu'elle soit candidate ? Il y a un problème.
Les adhérents.
Quoi ?
Les adhérents,
il faut beaucoup d'argent. Hein. Bon. Et puis, je veux dire,
les techniques actuelles, on voit ça aux États-Unis.
Oui. Bon, mais peut-être.
Regardez Sanders, les sommes folles qu'il a ramassées
Remarqué que nous sommes en France. Bon, mais peut-être.
Oui, mais
et donc, c'est pas la même chose.
Bon.
Donc, il y a quand même ce problème qui est important pour elle. Bon, pour elle, elle n'a pas changé son programme, qui est un programme de gauche. Elle est toujours à la retraite à 60 ans. Voilà. Revenir. Bon. Mais c'est la seule qui peut dire aux mécontents, qui sont nombreux, utilisez-moi, je suis la seule pour sanctionner Macron.
Et Marion,
À la fois, Macron dit, attention, je suis le seul qui peut faire barrage au Rassemblement National, qui est un parti qui est rejeté par les Français.
Et Marion, c'est un problème pour Marine. Écoutez, Marion.
Je n'exclus pas du tout que Marine Le Pen puisse gagner, mais je pense qu'elle ne peut pas gagner seule. Je pense qu'une fois de plus, les marges de manœuvre se trouvent plutôt chez une partie des LR, pas exclusivement, mais chez une partie des LR, et qu'il faut pouvoir assumer cette ouverture vers cet électorat en particulier.
Le Rassemblement national ne l'assume pas.
Je pense qu'en tout cas, oui, ils ont quelques scrupules à vouloir s'adresser prioritairement à un électorat qui se trouve sur ce pan de l'échiquier.
Marion Maréchal sur RMC, mardi matin, vous avez apprécié la quasi-prétérition. Je n'exclus pas du tout que Marine Le Pen puisse gagner. C'est-à-dire, je pense sérieusement que Marine Le Pen va perdre, c'est comme ça qu'il faut le traduire. Mais je pense qu'elle ne peut pas gagner seule, il faut qu'elle fasse alliance à droite. Donc je traduis, si elle ne fait pas alliance à droite, elle va perdre. Et du coup, ça aussi, peut-être que plus encore que les enjeux judiciaires ou financiers, c'est une difficulté potentielle pour Marine Le Pen, non ?
De toute façon, Marine Le Pen, elle a besoin de victoires. Elle a été battue à la présidentielle et depuis, elle n'a eu aucune victoire politique. Les municipales, avant les cantonales, je ne sais plus quelle élection, elle ne remporte rien. Et on met en avant victoire de...
En marche, c'est pareil. Hein.
On met en avant la victoire de... Oui, mais ils sont la majorité, c'est la différence. Oui. Mais la Perpignan, mais il ne s'est pas présenté, Louis Alliot, avec l'étiquette Rassemblement National. Vous avez remarqué, elle n'a pas été le soutenir aussi. Bon... Enfin, ils sont brouillés. Bon. D'accord.
Oui, mais enfin, il était plus sur la ligne Robert Ménard. Voilà,
absolument. Ah oui, à la Ménard. Oui. Bon.
Mais Ménard, c'est possible, Ménard, quelqu'un qui surgit et qui, du coup, lui mange la laine.
Ménard Robert ou Emmanuel Ménard?
Robert, Robert.
Parce que son épouse, Emmanuel, qui est députée, qui est... On voit bien, en tout cas, qu'il y a un espace aujourd'hui. Où est-ce qu'il faut le situer? À la droite de la droite ou à la gauche du Rassemblement national? Parfois, on l'appelle la droite hors les murs. Ce qui est clair, c'est que je pense qu'il y a toute une sensibilité d'une droite un peu ferme, un peu autoritaire, un peu conservatrice, un peu libérale, qui aujourd'hui ne se reconnaît ni dans les Républicains ou les grandes figures de la droite, ni dans le Rassemblement national.
Et quand les partisans de Marine Le Pen et d'autres objectent, oui, mais votre droite, là, elle s'est belle amie, elle a fait 8%.
Bah alors, 8%, c'est quand même 8%. Bon, et puis, c'est pas que la ligne Bellamy qui a fait 8%, c'est la droite qui, à ce moment-là, a fait 8%. Cette sensibilité, elle existe. Qu'est-ce qu'elle pèse? Je ne sais pas. Elle est évidemment minoritaire, mais elle existe. Et je pense que quiconque la négligerait, perdrait des électeurs.
Vous voyez, chers auditeurs, aussi bien la science politique que les meilleurs journalistes politiques, quand ils sont bons, ils arrivent à dire à peu près clairement et intelligemment et utilement ce qui est, mais ce qui sera. Allez, ce qui sera, d'autres mystères dans 2 minutes 30. Alors, il y a évidemment un autre sujet dont il est difficile de ne pas parler, à savoir la remontée de la pandémie, du Covid, ou de la Covid, comme vous voulez. D'un point de vue média, ce qui est terrible, je trouve, pour nos concitoyens, c'est la persistance de discours à ce point contradictoire chez les sachants du monde médical. Hier matin, j'ai entendu un épidémiologiste de qualité dire « ça n'est que la traîne de l'épidémie, très 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 peu de chances de seconde vague, ce sont que quelques cas sporadiques ». Et puis le soir, le professeur Guidet dire « l'épidémie repart, c'est incontestable, tous les indicateurs le montrent ». Et je me dis « mais les Français, quand ils entendent ça, bon Dieu que c'est angoissant, bon Dieu que c'est presque aussi exaspérant, et bon Dieu que ça rend difficile d'avoir une bonne politique sanitaire ». Alors, dans les problèmes d'aujourd'hui, on sait bien que le problème dominant, visible, c'est celui des tests, et de la durée et du temps mis et à attendre pour avoir un test, et surtout du temps mis pour attendre pour avoir les résultats, ce qui rend le test quasiment inutile, et que là-dessus, manifestement, je pense qu'il y a des défaillances de la politique publique. Mais il y a un autre sujet médiapolitique au moins aussi important et dur, un autre thème dans ce sujet, c'est l'extrême difficulté à convaincre les jeunes d'arrêter de faire les fêtes qui deviennent des clusters, voire, dans certains cas, de convaincre des jeunes qui ont le Covid de tout simplement déclarer qu'ils l'ont pour qu'on trouve les personnes contacts. Et c'est une des causes d'aggravation des choses. Et on se dit, mais comment est-ce qu'il faut faire? Si on est gouvernant, comment est-ce qu'il faut faire pour inverser ça? Vous avez ce sentiment?
Non, c'est une vraie question et raison de plus, c'est-à-dire pour que tout le discours se concentre sur cette difficulté liée à l'attitude de certains jeunes. Et malheureusement, je trouve qu'on continue, enfin les autorités politiques, sanitaires, continuent d'une certaine manière à cibler ceux qui sont les plus disciplinés, à savoir notamment les personnes âgées. Je veux dire qu'on est reparti dans ce discours, c'est « Ah, les personnes âgées, planquez-vous, protégez-vous, ne sortez pas, n'allez surtout pas chercher vos enfants, vos petits-enfants à la sortie de l'école ». Bon, très bien, mais depuis le début...
Cette déclaration sur les papys. Oui. Et le monsieur, il va bien rester sale, monsieur.
Il y a d'une part le côté infantilisant du discours. Deux, il y a le côté, s'il y en a qui se sont montrés responsables et résilients, c'est bien précisément les personnes âgées. Et quand j'entends encore qu'à nouveau, on dit « Ah, dans les EHPAD, il faudra restreindre les visites. Bon, » je veux dire que dans les EHPAD...
Pire. Tout le monde était parfois,
interdire. Alors que tout le monde s'est montré responsable, y compris les familles, qu'on a accepté de suivre les consignes qui étaient données. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, je trouve choquant, de sans cesse durcir les conditions de ce côté-là et d'assister impuissant à des quand c'est pas parfois avec bienveillance à des manifestations que le gouvernement laisse faire sans s'y opposer.
Oui, moi je trouve que dans l'impression de désorganisation de la maladie, là, avec les tests, c'est quand même d'avoir dit que les tests étaient gratuits et que tout le monde pouvait venir sans ordonnance, comme ça. Donc, il y a des gens qui se font tester plusieurs fois par semaine. Des jeunes qui, après avoir fait une boum, viennent se faire tester comme pour voir, c'est le jeu de la roulette russe. Mmh. Mais les laboratoires ne peuvent pas suivre.
Il y a ça d'ailleurs d'autres pays dans lesquels... Il y a d'autres pays, à commencer par l'Allemagne, dans lesquels il faut payer.
En Allemagne, on paye. Et la Bavière est le seul Länder où on ne paye pas. Ils ont, je crois qu'ils ont 13 millions d'habitants et ils font à eux seuls 36% des tests. Alors évidemment, on trouve qu'il y a beaucoup de cas positifs. Mmh. Mais là aussi, les laboratoires ne suivent pas, y compris en Allemagne, alors qu'ils étaient en avance. Et ça ne règle aucun problème.
Il y a une façon de le faire, d'ailleurs, sans vraiment faire payer, c'est d'exiger que ce soit sur ordonnance.
Oui, parce mais que, les ordonnances...
Parce qu'à ce moment-là, quand même, la visite médicale, elle est remboursée par la Sécu.
Oui, mais 20% des ordonnances sont inutiles, vous voyez, parce qu'une mère qui arrive avec son enfant qui a le nez qui coule, comment un médecin va dire, écoutez, n'allez pas faire le test. C'est très difficile de faire la différence entre un petit rhume de septembre et un début de Covid, vous voyez. Et ça coûte quand même 40 milliards à l'État, ce truc gratuit. Hein, c'est... Donc, c'est quand même un problème.
Donc, si on... En fait, au total, je vais faire à la tabarre, je vais faire un petit coup dans le même temps. Si on est lucide, il y a toutes les raisons de critiquer les pouvoirs publics dans la politique des tests. Et si on est honnête, Dieu sait que c'est difficile et compliqué de trouver un moyen qui fonctionne mieux. Et cette espèce de relative impuissance publique, on le retrouve sur un autre des grands sujets de la semaine. Peut-être que vous savez lequel, dans deux minutes.
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et notre invité, Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro et co-directeur de l'ouvrage « Les grandes figures de la droite » aux éditions Perrin, un livre de plus de 400 pages avec des beaux chapitres sur Benjamin Constant, sur Tocqueville, sur Chateaubriand, sur Napoléon, sur Thiers de Gaulle, Aron, Simone Veil. Simone Veil, tiens, pourquoi vous la mettez à droite, Simone Veil ?
Ben d'abord parce qu'elle s'est toujours inscrite elle-même à droite. Elle a toujours appartenu à des gouvernements de droite. Elle a toujours conduit des listes de droite. Donc elle est...
Mais ce n'était pas une femme de gauche à droite, comme il y a d'ailleurs des hommes de droite à gauche ?
Jean, l'idée de ce livre, c'est de montrer que le spectre idéologique de la droite est très large. Et c'est clair qu'elle incarne une sensibilité, que ce soit sur l'Europe ou sur les questions de société, qui n'est pas celle de toute la droite, mais qui en est une des composantes.
Je vais vous faire une confidence, Guillaume Tabar. J'ai interrogé hier son fils Jean Veil en lui demandant s'il estimait que vous aviez raison ou pas. Et il vous a donné raison.
Ah. Hein ?
Donc ça a un point de plus pour vous. On a parlé de Xavier Bertrand, du moment Bertrand. Moment Bertrand qui s'illustre d'ailleurs aussi par le fait qu'il est l'invité du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos demain à 10h, présenté par Michaël Darmon. Et Xavier Bertrand s'est retrouvé en première ligne, et lui et les dirigeants nationaux de notre pays, avec l'annonce de la fermeture de Bridgestone. Écoutez Xavier Bertrand.
Une fermeture complète de ce site, c'est un assassinat, et c'est un assassinat prémédité. On a affaire à des menteurs parce qu'en novembre 2019, ils nous ont dit les yeux dans les yeux, non, vous savez, il y a des difficultés sur le marché du pneu, mais il n'est pas question de fermer. On est aujourd'hui en septembre 2020 et visiblement, on a eu affaire à des cyniques et à des menteurs.
Et de son côté, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, invité de Laurence Ferrari, jeudi, sur CNews.
Bridgestone, c'est un cas particulier. C'est une entreprise japonaise qui a pris une décision révoltante avec une méthode révoltante et des conséquences révoltantes.
Alors, ils y vont carrément, d'ailleurs, chacun avec leur petite particularité de langage. Vous voyez que Xavier Bertrand ne fait jamais les liaisons. Hein. C'est un assassinat. Il ne dit pas « c'est un assassinat ». Et puis, le maire, lui, Bridgestone, quoi. On a presque l'impression d'entendre Canteloup quand on l'entend avec cet accent. Mais par-delà ça, ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire violence, force, puissance et violence des mots employés, dont on se demande parfois si elle n'est pas inversement proportionnelle à la possibilité d'agir. Catherine Ney.
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, enfin moi je connais mal le dossier Bridgestone, mais l'entreprise allait mal avant le Covid et que le Covid n'a pas arrangé les choses puisque l'industrie automobile est en panne et tout ça. Mais je crois que si la mesure de supprimer l'impôt de production que le Premier ministre veut mettre pour les entreprises de mettre en place avait été, alors que l'entreprise n'allait pas bien, était entrée en vigueur il y a un an, ça aurait sûrement arrangé les choses. Parce que ceux qui dirigent, il y a plusieurs usines en Europe, disent que l'industrie, que la celle de que la fermeture de l'usine de Bridgestone, là, à Béthune,
sûrement,
fait...
si vous permettez, Catherine, oui. Sur d'autres industries, peut-être, sur cette usine particulière qui produit des pneus que les gens n'achètent plus, je ne suis pas sûr que la baisse des impôts de production aurait changé grand-chose.
En tous les cas, ils ont fermé, les autres usines européennes n'ont pas été fermées. Vous voyez, en Italie, elles ne sont pas fermées. Donc, il y a quand même un problème. Mais en tous les cas, cette critique, quand on entend ce que dit Bruno Le Maire, que c'était révoltant, moi, je croyais entendre, mais des refrains anciens, c'est toujours révoltant quand on... Vous voyez, quand François Hollande avait promis qu'il sauverait Aulnay de PSA, il en avait fait la promesse, d'ailleurs, c'était le soir de son débat, le soir de son débat avec Nicolas Sarkozy, il y avait une délégation, il leur avait dit « mais je suis là, ça n'aura pas lieu », et puis l'usine a été fermée. La même chose sur Florange, où il était monté sur le camion de la CFDT en disant « je suis là, j'arrive, le changement, c'est moi », et ça ne sera pas fermé. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire que il y a des choses sur lesquelles les politiques font beaucoup de bruit et ne sont pas très efficaces. Quoi.
Mais ils ne peuvent probablement pas empêcher les fermetures. Ils peuvent agir pour qu'il y ait des solutions de remplacement, quand même, Guillaume Tabar.
Ils agissent,
et je trouve que ce que je trouve intéressant, si on est dans l'analyse du discours politique proprement dit,
tout à fait,
me garderai de prononcer sur le fond du dossier.
Non, on n'est pas dans la ligue économique de l'industrie du pneu. On est dans une émission qui s'appelle Mediapolis.
C'est qu'on est effectivement passé d'une sorte de volontarisme dans l'action. Catherine le rappelait, François Hollande, mais aussi Nicolas Sarkozy et tant d'autres qui disaient l'usine ne fermera pas, on ne laissera pas faire, etc. Une fois que tout le monde a constaté que c'était hélas devenu impossible, enfin hélas, donc le fonctionnement de l'économie fait que ça n'est pas un homme politique qui peut empêcher une usine de fermer ni lui permettre d'ouvrir, on est passé à un autre registre qui est celui de l'indignation dans les mots. Et vous avez raison.
Oui.
Moins ils peuvent agir, et plus ils emploient des mots, et des mots durs.
Donc au lieu de dire « je ne vous laisserai pas faire », ils disent « vous êtes des salauds ».
Voilà. Ouais. Et donc, au lieu de dire aux salariés « on va faire quelque chose pour vous », ils pointent l'entreprise elle-même en disant « vous êtes des salauds, vous êtes des menteurs ». Le mot menteur, c'est, même en politique, on l'emploie très rarement.
Ouais, ouais.
Et pour l'employé, il faut vraiment vouloir frapper l'opinion. Juste un tout petit mot
oui,
rapidement.
De Catherine, oui. Un tout petit mot de Catherine, absolument.
Non, mais il faut rappeler que le seul qui avait été honnête, c'était Lionel Jospin en 99, je crois, qui avait dit aux ouvriers de Michelin qui faisaient des suppressions d'emplois que l'État ne peut pas tout. Il essayait d'être honnête. Hein,
tout bon. En ajoutant « mais » avec la lutte,
oui,
etc.
Oui, oui. Ah, mais ça lui a été autant reproché que le sentiment d'insécurité plutôt que l'insécurité.
Alors qu'il avait raison.
Ah oui, ça c'est un des cas exceptionnels, en effet, des mots politiques où un type dit une chose vraie et courageusement et où il traite ça comme un boulet. Il faut le faire. Alors, on va, comme d'habitude à cette émission, à la fin, on va sortir de France, on va aller pas très loin, mais ailleurs en Europe, où est apparue une nouvelle manière de protester et de résister à la répression des forces de l'ordre absolument originale. Vous allez voir dans 2 minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Guillaume Tabar, notre invité, le grand éditorialiste du Figaro, de Radio Classique. Vous voyez, je cite même la concurrence.
Radio Classique, même si c'est une radio concurrente. Mais...
j'espère que je ne vais pas me faire engueuler.
Nous avons beaucoup d'amis.
On a appris qu'ils avaient une solution de remplacement avec vous, donc tout va bien. Alors, Alice Baudry, qui dirige le marketing et la communication de l'Institut Montaigne, surveille pour nous les médias internationaux. Et elle cherche s'il y a des choses intéressantes du point de vue médiapolitique. Cette semaine, elle nous invite à consulter le site du grand quotidien britannique The Guardian pour y trouver une vidéo. Une vidéo des manifestations de milliers de personnes dans les rues en Biélorussie. Et on y voit les manifestants, ou plutôt les manifestantes, puisqu'il s'agit principalement de femmes arrachées les cagoules de la police et des agents de sécurité. La répression des manifs est forte. Ça cogne, on arrête, mais ils sont masqués pour qu'on ne puisse pas les identifier et les reconnaître. Des dizaines de personnes ont été arrêtées, je viens de le dire. Cette vidéo est particulièrement parlante puisqu'on y voit la colère des femmes qui se jettent sur ces agents. Et elle illustre la violence. Au moment où le président de Biélorussie, Alexander Loukachenko, vient de donner carte blanche à la police anti-émeute de s'attaquer aux manifestants, même lors des manifs pacifiques. La police s'est vue retirer les masques et les cagoules par ces femmes pour qui il est hors de question qu'ils restent protégés. Nombre d'entre eux ont alors déguerpi de policiers, d'agents de sécurité. Je dis à répression inédite, car masqué a répliqué protestation inédite en les démasquant. Merci Alice Baudry. Alors, on ne va pas, sauf si vous avez des choses particulières à dire là-dessus, revenir sur cette forme nouvelle de protection-protestation, parce que je viens de le dire, mais peut-être qu'on a aussi là une illustration pour nous Français et nous Européens, je veux dire Européens de l'Union Européenne, des difficultés de l'action politique. Parce que d'un côté, il est assez choquant, je trouve, on peut trouver, de ne pas se solidariser avec ce peuple biélorusse qui s'attaque si courageusement à un dictateur. Et de l'autre, on a des nécessités de garder avec, si ce n'est Loukachenko et la Biélorussie, en tout cas Poutine et la Russie, un minimum de relations de qualité, parce que sinon, tout le monde y est perdant. Donc, on est pris aussi dans cette nasse, Guillaume Tabar ?
Oui, je crois qu'il y a lundi une rencontre à Bruxelles entre donc, les autorités européennes et l'opposante en chef de Loukachenko, ouais. Svetlana Tikhanovskaya.
Ce qui est déjà bien.
Ce qui est important, alors, on nous dit que c'est une rencontre informelle. Oui. C'est déjà une manière d'anticiper pour dire que n'attendez pas à ce qu'il y ait une sorte de soutien officiel qui soit porté, etc. On sait bien que la seule question n'est pas tant ce que peut faire l'Europe sur la Biélorussie, mais l'attitude de Poutine à l'égard de Loukachenko. Est-ce qu'il le soutient mordicus jusqu'au bout ? On voit bien quand même que de plus en plus, lui aussi, commence à prendre ses distances et commence à le laisser se dépatouiller. Bon, voilà. Il semble, enfin moi je ne suis pas du tout un expert de cette région-là, mais de ce que je lis, tout le monde a l'air de considérer comme étant acquis que ce régime, qui est en place depuis près de 30 ans maintenant, ne pourra pas rester durablement. Les élections ont eu lieu le 9 août. Est-ce que ça va prendre encore 15 jours, un mois, trois mois ? On ne sait pas, mais tout le monde a l'air de dire que ce régime est condamné. Voilà, mais une fois de plus, c'est Vladimir Poutine qui a la solution entre ses mains. Et je pense que la question pour l'Europe et pour la communauté internationale, c'est est-ce qu'ils seront capables de participer à la mise en place d'un nouveau régime, voilà, ou est-ce que c'est Moscou qui décidera de tout à la suite ?
Comme toujours, il arrive aussi que les dictatures, par la répression, arrivent à tenir, hein, je tiens à le souligner. Et c'est par exemple, pour l'instant, le cas en Algérie, où le journaliste Khaled Drareni a été condamné en appel à 2 ans de prison. Je rappelle que ce journaliste a été correspondant de TV5 Monde, qu'il est le fondateur d'un site très populaire en Algérie qui s'appelle Kasbah Tribune, animateur d'une émission radio hebdomadaire, correspondant de l'ONG Reporters sans frontières en Algérie. Et ce qu'on lui reproche, c'est de couvrir les manifestations. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir rejoint des manifestations. C'est donc une atteinte, une fois de plus, très inacceptable pour les gens qui tiennent à la liberté d'expression et à la liberté du travail journalistique que sont... une arrestation. Et alors, dans l'hypocrisie propre aux dictatures, on lui a dénié sa qualité de journaliste sous prétexte que sa carte de presse n'était pas à jour, aucune carte de presse ou quasiment n'est à jour en Algérie. Tout ça est terrifiant. Du coup, on a choisi comme chanson l'hymne de la protestation populaire en Algérie, l'hymne de la protestation populaire qui a été écrit et qui est chanté par le rappeur Soul King Feat en duo avec Ouled El Banja, La Liberté, et qui, lors de sa première diffusion en mars 2019, a été l'objet en une semaine de 17 millions de vues sur YouTube. 17 millions de vues en une semaine. Cette chanson, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs, la liberté, ça ne nous fait pas peur.
Plein de chagrin, la voix qui prie pour un meilleur destin. sentiments. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. Ils ont cru qu'on était mort, ils ont dit bon débarras. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma taupe. Emmenez-moi là-bas.
Cette chanson composée par le rappeur Soul King, je pense que même les gens qui n'aiment pas le rap auront été sensibles à la force des paroles et de la musique qu'on vient d'entendre de cette chanson qui donc est celle de l'Irak algérois. Merci infiniment à Capucine Patouillet qui a préparé l'émission, à Jean-Luc Arblat qui l'a réalisé, à Catherine Ney qui l'anime si élégamment et à Guillaume Tabar, notre invité. Vous pouvez faire écouter l'émission en podcast sur europe1.fr ou la réécouter vous-même. Et nous, on se retrouve samedi prochain.